France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Paul Deschanel, le président qu'on a retrouvé en pyjama sur le référé. Voilà un homme réduit à sa chute. Et c'est une grande injustice. Paul Deschanel, président de la République, tombe en effet du train le 23 mai 1920 au kilomètre 110 d'une voie de chemin de fer. Terrible et injuste résumé de la vie d'un homme de grande valeur, humaniste et visionnaire. Fidèle et loyal serviteur de la Troisième République, deux fois président de la Chambre, travailleur acharné, fin connaisseur des dossiers, orateur salué, Deschanel est élu président de la République au nez et à la barbe de la star Clémenceau qui, vu son égo, a très mal vécu la chose. Deschanel n'était pas fou, non, dépressif, tout au plus. Mais une situation accentuée par l'impuissance qu'il ressentait dans ses fonctions. Sous la Troisième République, en effet, le président inaugure les chrysanthèmes. Le vrai pouvoir est entre les mains du président du Conseil. Comme l'écrit l'un de ses biographes, Deschanel est un arbitre sans sifflet ni carton rouge. Notre invité aujourd'hui, Thierry Billard, directeur éditorial chez Robert Laffont, et auteur de la biographie Paul Deschanel, le président incompris, biographie parue en 2002 aux éditions Perrin. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Philippe Touzet. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Hiver 1920. Il y a une certaine inquiétude, ou du moins des interrogations parmi les proches de Paul Deschanel. À sa famille, ses proches collaborateurs, ses amis politiques, relèvent certains comportements, disons, préoccupants chez le président nouvellement élu. Ainsi, à Bruxelles, lors d'un dîner d'État avec le roi des Belges, Albert Ier, son attitude surprend la princesse Marie-Josée de Belgique, au point que, bien des années plus tard, elle relate cette rencontre dans ses mémoires, Albert et Élisabeth de Belgique, mes parents.
« Je me souviens d'un homme de taille moyenne, auréolé d'une magnifique chevelure blanche. » Ce qui me frappait chez lui, de prime abord, était une surexcitation presque maladive. Il parlait sans arrêt, d'une manière d'ailleurs extrêmement brillante, mais en voulait à tout le monde avec une véhémence exagérée. Toute la soirée, je ne l'entendis parler que de l'abominable traité de Versailles. À un moment donné, l'état d'excitation du président atteignit un tel degré que mon père lui conseilla d'aller prendre un peu de repos.
Oui, le roi des Belges demande au président français d'aller dans sa chambre pour se calmer. Premier coup de semonce. Quelques jours plus tard, à Bordeaux, Deschanel embrasse avec fougue des officiers et des mutilés de la Grande Guerre. Bizarre tout de même, cette démonstration de sentiments empreints d'affection et d'empathie. Un président de la République ne devrait pas faire ça. Les membres de sa suite sont sidérés. Deuxième coup de semonce. Ensuite, il bouscule le protocole, car il se sent oppressé par le décorum de sa fonction. Il ne supporte pas les agents de sécurité qui le suivent pas à pas. Il se sent piégé. Le 5 avril à Nice, il assiste à la fête fédérale des sociétés de gymnastique. Au cours du banquet servi dans le hall du casino, Deschanel se lance dans un discours enflammé, mêlant grandiloquence, trémolo dans la voix et France éternelle. Les invités applaudissent à tout rompre. Un triomphe. Si bien qu'il décide de déclamer à nouveau son discours. Mais cette fois, évidemment, stupéfaction et malaise parmi les convives. Troisième coup de semonce. Bonne fille, la presse tait l'incident. Ou du moins, ne relève pas. Au contraire même, comme le montrent ces quelques lignes du journal de Gaulois.
Monsieur Paul Deschanel fait une courte promenade dans le jardin de l'hôtel. C'est le moment guetté par les habitants qui veulent emporter un souvenir de l'illustre pensionnaire. Des appareils photographiques, pas plus grands que la main, sont braqués en sourdine. Le président, par un aimable sourire, donne l'autorisation tacitement souhaitée. C'est une minute charmante. Chacun s'en va vivement développer son cliché et tous lui sont reconnaissants d'une si bonne grâce qui se manifeste avec tant de tact et de délicatesse.
Comme quoi, malgré les appréhensions de l'entourage de Deschanel, jusqu'ici, tout va bien. Mais dans 48 jours, le président tombera du train. Si l'on reconnaît la grandeur d'un homme à la valeur de son ennemi, comme le dit un proverbe, alors Paul Deschanel est grand. Parce qu'en cette année 1894, son adversaire s'appelle Georges Clémenceau. Deschanel est un député d'Eure-et-Loir de 39 ans, Clémenceau, lui, est un homme politique et patron de presse déjà établi. Et nous sommes partis pour une rivalité entre un jeune loup, un sans grade, ou presque, contre une figure bientôt tutélaire et qu'on surnommera le Tigre. C'est le scandale de Panama qui dresse les deux hommes l'un contre l'autre. Pour faire simple, la construction du canal de Panama dissimule une affaire de corruption qui éclabousse la classe politique française et qui ruine des petits épargnants. Clémenceau est vertement critiqué pour les relations qu'il a entretenues avec Cornelius Hertz, homme d'affaires douteux, fortement impliqué dans cet emprunt tout aussi douteux. Hertz a soutenu financièrement en son temps le journal La Justice, créé précisément par Clémenceau. Les plus virulentes attaques sont l'œuvre d'un jeune parlementaire, Paul Deschanel justement, et son discours cinglant au perchoir de la Chambre des députés, le 26 juillet 1894, provoque la colère de Clémenceau qui lui répond le jour même, dans son journal, d'une plume trempée dans le vitriol.
Un jeune drôle, du nom de Paul Deschanel, s'est permis de baver sur moi hier à la Chambre. Je n'ai pas sous les yeux le compte-rendu officiel de la séance, mais je ne puis attendre plus longtemps pour lui dire qu'il s'est conduit comme un lâche et qu'il a effrontément menti. Ce polisson, qui procède par basses insinuations, profère à l'égard de mon journal La Justice des allégations qu'il sait mensongères. Ce n'est pas tout. Il a mis en cause la politique extérieure que j'ai suivie pendant 20 ans avec l'approbation de tout son parti. Et il a honteusement insinué que je servais un intérêt étranger. Pour proférer une pareille accusation, quand on la sait mensongère, il faut être, comme M. Deschanel, le dernier des misérables. M. Paul Deschanel est un lâche. M. Paul Deschanel a menti.
Insulté publiquement, Paul Deschanel demande réparation par un duel à l'épée. Ce qui est aussi courageux qu'inconscient, car tout le monde le sait. La France entière sait que Clémenceau est une fine lame. Son caractère ombrageux, ses réparties assassines lui ont déjà valu de participer à une douzaine de duels. La rencontre a lieu à Boulogne-sur-Seine, chez une relation commune, le député Cornudet, élu de la Creuse. Le déroulement du combat est en première page du journal La Patrie, le 28 juillet 1894.
Monsieur Clémenceau charge son adversaire qui rompt en allongeant le bras. Monsieur Clémenceau redouble ses battements, précipite son attaque et devant l'épée toujours tendue de M. Deschanel, essaie en vain de l'atteindre. Le premier engagement se termine sans résultat. À la deuxième reprise, le même jeu recommence. M. Clémenceau chargeant toujours, se découvrant imprudemment jusqu'au moment où M. Deschanel est atteint. M. Deschanel est blessé à la partie supérieure droite du visage. Aussitôt, le sang l'aveugle et c'est en vain qu'il demande à continuer le combat.
C'est un duel au premier sang, et il vient de couler. Fin du combat. La blessure infligée à Paul Deschanel, longue de 3 cm au-dessus de l'arcade sourcilière, n'est pas à prendre à la légère, mais l'honneur des deux hommes est sauf. Quelques jours plus tard, Clémenceau écrit dans une lettre adressée à une amie « Si j'avais été méchant, mon petit Paul serait maintenant dans un bien mauvais état. Voilà mon duel, je n'en suis pas fier. » Clémenceau, bretteur d'un jour, adversaire politique de toute une vie. En 1894, Deschanel est un jeune député encore dans l'ombre de son père, Émile Deschanel, opposant républicain historique à Napoléon III. Georges Clémenceau, lui, est déjà dans la lumière. Une lumière qui va prendre son temps pour éclairer le destin de Paul Deschanel, dont voici la voix. C'est un document exceptionnel.
Représentants de la France, élevons nos âmes vers les héros qui combattent pour elle. Depuis 5 mois, ils luttent pied à pied, offrant leur vie gaiement à la française pour tout sauver. Jamais la France ne fut plus grande. Jamais l'humanité ne monta plus haut.
Deschanel est alors président de la Chambre des députés. Et le discours, ce discours dont vous venez d'entendre un extrait, date du 22 décembre 1914, quelques mois après le début de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, il est au sommet de son oratoire. Apprécié par les parlementaires de tous bords, il dispose de toutes les qualités qui font un bon président de la Chambre. Il est ouvert au dialogue, il a le sens du consensus et parfois aussi du compromis. Son impartialité dans les débats est reconnue de tous, et c'est lui qui, le premier, a l'idée d'organiser régulièrement des dîners à l'hôtel Lassé, où il invite des représentants de tous les partis. Ainsi, entre le fromage et la poire, les députés conviés peuvent discuter âprement, mais sans hausser le ton. En ces temps particulièrement troublés, Paul Deschanel est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais il donne déjà à l'époque des signes de fébrilité qui inquiètent son ami Joseph Caillaux, ancien président du Conseil, qui se souvient d'un moment douloureux dans ses mémoires.
Il souffrait de tout ce qui l'offusquait. Il avait une sensibilité féminine qui se répercutait dans ses relations d'amitié. Une poignée de main détachée, un mot brusque venant de quelqu'un qu'il chérissait, lui causait une peine qu'il ne pouvait pas dissimuler. Je garde la mémoire d'une séance de la commission du budget. Paul Deschanel avait laissé passer, et même appuyé, une invraisemblable motion dont les trafiquants du Congo s'armaient pour tenter d'escroquer l'État. Il voulut défendre, non sa bonne foi qui était hors de cause, mais sa position qui avait été de naïveté. Naturellement, il pataugea. Je m'agaçais. J'en vins à lui répliquer d'un ton un peu rude. Quel chagrin vous m'avez fait! Comment vous? Vous me parlez de la sorte, me dit-il au sortir de la séance. J'avais déjà oublié mon irritation, et je lui aurais répondu en riant si je n'avais pas senti que son émotion était profonde.
En 1920, de l'eau est passée sous les ponts. Deschanel a été deux fois président de la Chambre, de 1898 à 1902 en pleine affaire Dreyfus, et de 1912 à 1920, couvrant ainsi l'intégralité de la Première Guerre mondiale. Il est donc devenu une personnalité incontournable de la politique française. Et le temps est venu pour lui de réaliser le rêve de toute une vie, devenir président. Sous la Troisième République, le président est élu par l'ensemble de la représentation nationale, députés et sénateurs. Et pour cette élection présidentielle, qui se dresse face à Paul Deschanel? L'indéboulonnable Georges Clemenceau, encore et toujours. À ceci près que le tigre est devenu le père la victoire, une légende de son vivant. Alors quand il émet le souhait de se présenter à la présidence de la République, ses opposants se retirent les uns après les autres, tous, sauf Paul Deschanel.
Monsieur Clemenceau, vous avez gagné la guerre. Laissez-nous gagner la paix.
Monsieur Deschanel, ce n'est pas en bêlant la paix que vous éviterez la guerre.
Mais je ne veux pas éviter la guerre, je veux l'abolir.
Monsieur Deschanel, ne vous aventurez pas sur ce terrain-là, il est miné. Je suis comme la guerre, que vous semblez si mal connaître pour ne l'avoir jamais faite.
C'est vrai que vous êtes comme la guerre, Clemenceau. Vous êtes fini.
Comme le montre cet extrait de l'excellent film « Le savoureux, le tigre, le président » de Jean-Marc Perfitte, Deschanel remporte la joute verbale et le vote préparatoire, un suffrage certes consultatif, mais qui donne le ton de la véritable et officielle élection, prévue le lendemain. C'est le coup de tonnerre avant le coup d'éclat. Le 17 janvier 1920, réunis en congrès à Versailles, députés et sénateurs portent massivement Deschanel à l'Élysée. Voici la revue de presse des jours qui suivent.
L'intransigeant. Choisir Clemenceau, c'était entrer dans l'inconnu. C'était risquer une politique d'à-coup, une politique de cour et d'intrigue. Le temps. Il eût fallu à Clemenceau adoucir son orgueil et éclaircir son entourage. L'orgueil restait un peu farouche, l'entourage inquiétant. La France libre. Les qualités de M. Clemenceau le desservaient à certains yeux pour la candidature à l'Élysée. Il en faut d'autres, faites de souplesse, de neutralité attentive et bienveillante à l'égard de tous les partis, de bonne humeur, d'habileté mondaine, de douceur diplomatique et de discipline constitutionnelle. Il est incontestable que M. Deschanel les possède à un suprême degré.
Au lendemain de l'élection, la presse française écrit l'épitaphe de Clémenceau et l'éloge de Deschanel. La presse internationale, elle, est beaucoup plus divisée. Outre-Manche, le Daily Mail est enthousiaste. Il faut féliciter la France de son excellent choix. Mais outre-Atlantique, le New York Times n'y va pas par quatre chemins. Les représentants du peuple français ont commis une erreur qui leur fera plus de tort qu'à M. Clémenceau. Et le New York World enfonce le clou. La défaite de Clémenceau ne fera pas honneur à la France. Enfin, outre-Rhin, chez l'ancien et le futur ennemi, la Gazette de Vos est le reflet sans filtre de l'humeur générale du peuple allemand. Pour nous, le plus prudent est de ne rien attendre du nouveau président de la République.
La pluie venait du nord. On passait sous ma porte. Je comptais vivre fort. Et que le diable m'emporte. J'allais à la fenêtre, enroulé dans un drap. Je secouais la tête et j'en écartais les bras. J'avais des hauts, j'avais des bas. J'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas. Moi j'en voulais trop, j'ai même eu ce que je ne voulais pas. 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 Je restais enfermé.
Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la chute du président Deschanel.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Pour expliquer sa théorie de la relativité du temps, récemment élaborée, Albert Einstein expliquait « Une heure assise à côté d'une jolie femme semble durer une minute. Une minute assise sur un four brûlant semble durer une heure. » C'est ça, la relativité. Oui, c'est aussi la différence entre le temps et la durée. Une théorie qui semble parfaitement s'appliquer à Paul Deschanel. Il entre en fonction, donc à l'Élysée, le 18 février 1920. De cette date jusqu'à sa chute du train, le 23 mai, il ne s'écoule que 3 malheureux petits mois. C'est peu de choses dans une vie, mais pour le tout nouveau président de la République, ces 14 semaines ne sont qu'un long et insidieux calvaire qui va s'achever par un interminable voyage au bout de la nuit. En arrivant à l'Élysée, Deschanel pense qu'il pourra faire évoluer les institutions de la Troisième République. Il veut donner plus de poids à la présidence pour offrir au sommet de l'État, disons, une stabilité durable et qui manque cruellement à la Troisième République, épuisée par ces changements incessants de gouvernement. Mais il se heurte à une succession de murs disposés les uns derrière les autres. Le premier, pour être honnête, il l'a érigé lui-même. Durant tout son parcours politique, dans l'espoir de devenir président, il a soigneusement refusé des postes ministériels à risque qui auraient pu compromettre son ascension vers l'Élysée. Eh bien, le résultat, c'est qu'il n'a qu'une vague idée du fonctionnement de l'exécutif. Il ne sait pas comment fonctionne un gouvernement, ce qui est plutôt embarrassant, vu ses nouvelles fonctions. Le deuxième mur, incontournable, c'est la Constitution. Et pour la réformer, il faut avoir la main sur l'exécutif. Nous voilà donc face au troisième mur, le président du Conseil, en l'occurrence à l'époque Alexandre Millerand. Alors celui-ci est intransigeant sur ses prérogatives. Il ne laisse aucune marge de liberté à Deschanel. Le message est limpide, le patron, c'est le président du Conseil, pas le président de la République. Un constat sans appel que le député Léon Blum appuie, sans réserve, dans sa lettre sur la réforme gouvernementale.
J'ai le goût du travail bien fait, et je sais que tout travail collectif comporte des règles fixes et exige une direction unique. Cette direction, c'est le président du Conseil qui doit l'assumer. Là est son rôle, là est sa fonction propre. Il doit diriger le travail du Parlement, c'est-à-dire le travail politique. Il doit diriger le travail de ses ministres, c'est-à-dire le travail administratif. Il doit les diriger séparément dans leurs rapports, car c'est à lui qu'il appartient de les lier, de les coordonner l'un à l'autre. Et c'est ce que j'entendais par la formule dont je me suis déjà servi, adapter l'administration à une politique. Pour rappeler deux expressions anglaises, un président du Conseil se nomme vis-à-vis de ses ministres le premier, vis-à-vis du Parlement, le chef. Habituons-nous à voir en lui ce qu'il est, ou ce qu'il devrait être, un monarque.
En ce dimanche 23 mai 1920, c'est donc un homme fatigué mentalement qui monte dans le train présidentiel. De surcroît, Deschanel est grippé. Bon, à 21h30, le convoi s'ébranle, direction Montbrison, où le président doit inaugurer un monument à la mémoire du sénateur et aviateur Émile Raymond, tué pendant la guerre. Peut-être rumine-t-il avant d'enfiler son pyjama ce sentiment d'impuissance, cette impression d'être une potiche de la République. Peut-être repense-t-il à cette lettre que lui a envoyée en réponse à son désarroi, son ami et prédécesseur à l'Élysée, Raymond Poincaré.
Mon cher président et ami, durant ma présidence pendant la guerre, j'ai été deux ou trois fois amené à recevoir des représentants des chambres qui venaient me soumettre des observations au sujet de la composition ou de l'action des cabinets. Je leur ai toujours répondu qu'ils devaient s'adresser non au président de la République, mais au gouvernement responsable. Le président du Conseil est constitutionnellement responsable devant les chambres, comme M. Millerand l'a déclaré à la tribune, du choix de ses collaborateurs. C'est lui qui contresigne le décret qui les investit. Il n'appartient pas au président de la République de mettre les chambres au courant des conversations qu'il a eues avec le président du Conseil, ni des avis qu'il a pu donner. Je crois que toute autre attitude et tout autre langage créerait un précédent et vous rendrait, pour l'avenir, la tâche très difficile.
S'il a une culture approximative de l'exécutif, Deschanel, en revanche, est un fin connaisseur de la sphère législative et du monde politique, avec ses grandeurs, ses bassesses. Comment alors a-t-il pu croire qu'il pourrait changer quoi que ce soit à une machine aussi bien huilée, implacable sur ses principes ? S'est-il laissé aveugler par une colossale et coupable naïveté ? Est-ce qu'il se souvient seulement de son premier conseil des ministres ? Un véritable camouflet, pire que ça, une gifle, un coup de poing dans l'estomac. À plusieurs reprises, il prend la parole, donne son point de vue, mais les ministres ne l'écoutent pas, ne discutent pas ses propositions. Bref, ils l'ignorent. Ils lui font comprendre, sans mot dire, qu'il n'est qu'un pantin tout juste bon à aller couper du ruban aux quatre coins de la France. Eh bien, c'est justement ce qu'il va faire en ce dimanche 23 mai. Déposer une gerbe de fleurs, prononcer un discours et flatter les notables du coin. Quelle purge! Alors que le train traverse la banlieue, Deschanel prend un calmant et ordonne à son valet de chambre de le réveiller à 7 heures le lendemain et de ne le déranger sous aucun prétexte. Bien. Il se couche, le wagon est surchauffé, le temps est orageux.
Montez. Ah, Victor, ne me réveillez pas avant 8 heures. Je n'ai pas dormi depuis 3 nuits, je vais prendre un somnifère.
Très bien, monsieur Président.
N'oubliez pas mes chaussures.
Ah oui, pardon, monsieur le Président.
Bonsoir, monsieur le Président.
Bonsoir, Victor.
Il est 23h10, le président ne dort toujours pas. Il se tourne et se retourne dans son lit. La chaleur dans le wagon est insupportable. Alors il se lève, terrassé de fatigue, l'esprit embrumé. Le calmant commence à faire son effet. Il se dirige d'un pas hésitant vers la fenêtre guillotine de son wagon. À ce moment-là, coïncidence qui le sauvera sûrement, le convoi ralentit fortement pour traverser un chantier en cours. La fenêtre résiste, Deschanel insiste pour l'ouvrir. Et quand elle cède brusquement, il bascule, tombe la tête la première sur le ballast. Le train s'éloigne, il se relève, hébété, visage tuméfié et ensangloté, il est seul, tout seul, dans la nuit. Il vient d'entrer dans la postérité par la mauvaise porte ou la mauvaise fenêtre.
Paul Deschanel, désormais est immortel. Il vient de faire un tour, plein d'adresse et plein d'humour. Allant à Montbrison, par la portière du wagon, il s'est jeté sans filet et s'est retrouvé complet. Il n'a pas abîmé son pyjama. C'était pas tant, mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama. Il est verni, chef de l'État.
Alors il marche le long de la voie, Paul Deschanel, jusqu'à croiser André Radeau, le garde-barrière du passage à niveau 79, qui fait sa tournée d'inspection. On imagine facilement la surprise de cet homme quand il voit surgir au cœur de la nuit, à la lueur de sa lanterne, un individu en pyjama couvert de sang. Une surprise mêlée d'inquiétude et de méfiance quand l'individu en question lui dit « Je suis le président de la République et je suis tombé du train. » Médusé, Radeau aurait répondu « C'est ça, et moi je suis le pape. » Une chose est sûre, c'est que le garde-barrière s'empresse d'accompagner le naufragé du rail jusqu'à la maison la plus proche, celle de son collègue et ami Gustave Dario, et de son épouse, tous deux garde-barrières, comme nous le raconte la fiction radiophonique « La folle nuit de Monsieur Paul Deschanel, président de la République française » dans l'émission « Au fil de l'histoire ».
Dédé, t'es complètement ma boule, qu'est-ce qui te prend de faire la java à plus de minuit?
Je suis pas tout seul.
Oh merde, monsieur, dans quel état vous êtes?
Je suis tombé du train.
Oh, alors, entrez, entrez. Mado, lève-toi!
Mais qu'est-ce qu'il y a?
Lève-toi et ramène-toi! Asseyez-vous, monsieur. Vous voulez un petit remontant?
Non, merci.
Mais c'est quoi tout ce raffut? Mon Dieu, mon pauvre monsieur!
Elle est où ta robe de chambre?
Dans la chambre. Oh, pardon!
Et profites-en pour ramener de quoi faire des bandages. Alors, mon beau monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Je suis le président de la République.
Hein? Eh oui.
Il est minuit et demi dans la petite maison des gardes-barrières. Le couple s'affaire autour du blessé. Madame Dario nettoie et panse les plaies et Monsieur Dario va jusqu'à coucher l'inconnu dans leur propre lit. Après s'être assuré que l'homme s'est endormi, il saute sur son vélo, direction la gendarmerie de Corbeil. Les gendarmes, très sceptiques à l'écoute de cette histoire, décident de ne rien faire. Ils réveillent quand même le docteur Guillaumeau, qui arrive peu de temps après chez les gardes-barrières. Et ils constatent que l'homme n'a que des blessures superficielles. Il n'a pas de fièvre, mais il tient des propos décousus, confus. Il serait, d'après lui, le président de la République. Bon, une bonne nuit de sommeil, hein, un peu de repos, demain il fera jour. À quelques kilomètres de là, dans la nuit, aux environs de 5 heures, le sous-préfet du Loiret reçoit un télégramme.
Un homme, se disant Monsieur Deschanel, est tombé du train présidentiel au kilomètre 110. Autorités locales et docteurs sont prévenus.
Le sous-préfet Le Sueur n'a pas fini la lecture du télégramme qu'il est déjà debout. À la lecture de l'indication kilométrique, il situe l'endroit juste avant Montargis. Quelques heures avant, il était justement sur le quai de la gare de cette ville du Loiret. Oui, c'est une tradition républicaine que le sous-préfet soit présent au passage du train du président, au cas où celui-ci descendrait de son wagon, même en pleine nuit, même un bref instant. Mais cette nuit-là, Le Sueur ne voit pas le président. Non, pendant le ravitaillement en eau de la locomotive, il discute tranquillement avec deux membres de la suite présidentielle, M. Houdaille, le commissaire des voyages officiels, et M. Dumas, employé de la compagnie PLM, qui remarque que la fenêtre du compartiment du chef de l'État est ouverte. Bon, mais alors, il fait chaud, le temps est à l'orage, voilà, c'est tout. Et le train repart. Le sous-préfet, lui, se précipite hors de sa chambre, puis il revient. Il ne va tout de même pas sortir en pyjama. En s'habillant, il fait préparer son automobile. De son côté, le train présidentiel poursuit son petit bonhomme de chemin. Le télégramme aussi. À l'arrêt de Nevers, le commissaire Houdaille en prend connaissance et se dit qu'il faut peut-être faire quelque chose. La liste des passagers recense en effet 54 noms. Or, l'appel fait à haute voix en dénombre 53. Et là, quelqu'un dit « Mais le 54e, c'est le président. Il dort dans sa chambre, on ne va pas le réveiller pour ça. » Parfait. Soulagement de rang, l'évidence. Et le train repart. À 7h du matin, le sous-préfet Le Sueur arrive chez les Dario, les gardes-barrières qui ont couché dans leur lit l'individu retrouvé errant le long de la voie de chemin de fer. Eh bien, pas de doute, cet homme en pyjama, avec des pansements, c'est bien le président de la République. Incroyable! Donc, salutations distinguées, propos de circonstances, remerciements appuyés au couple Dario, et le président, qui s'est changé, part avec le sous-préfet pour Montargis. Son fils et son épouse, prévenus, viendront le chercher dans la journée. À la même heure, 7h du matin, le train présidentiel arrive 300 km plus loin, à Roanne. Où l'arrêt est plus long, pensez donc, le valet de chambre vient de s'apercevoir que le président a disparu. Premier réflexe de la police, face à l'ahurissante nouvelle, elle arrête le valet. Quelques heures plus tard, la suite présidentielle ayant reçu des nouvelles rassurantes de Montargis et de Paris, reprend sa route jusqu'à Montbrison. L'inauguration prévue aura bien lieu. Mais sans le président qui échappe donc à une nouvelle coupe de ruban bleu, blanc, rouge. Le lendemain, l'histoire est à la une de tous les journaux, comme l'Excelsior qui écrit.
Dès que la nouvelle de l'accident arrivé à M. Deschanel fut connue, de nombreuses personnalités se rendirent aussitôt à l'Élysée, avides de renseignements et désireuses de manifester sans retard leur sympathie. Le registre où s'inscrivent les visiteurs ne tarda pas à se couvrir de noms, parmi lesquels nous avons retenu, entre beaucoup d'autres, Quinones de León, ambassadeur d'Espagne, Dr Mayer, chargé d'affaires d'Allemagne, le ministre de Norvège et baron de Wedel-Jasberg, M. Dunant, ministre de Suisse, baron Maklakov, ambassadeur de Russie, Jourdain, ministre du Travail. Le roi d'Espagne a adressé un télégramme dans lequel il exprime ses regrets de l'accident et ses vœux de prompte et complète guérison.
À l'Élysée, Paul Deschanel est examiné par ses médecins qui ne constatent que des ecchymoses superficielles sans aucun caractère de gravité et une pression artérielle parfaitement normale. Le lendemain, le chef de l'État préside donc le Conseil des ministres. Voilà. Fin d'histoire ? Non. Car la chute ne fait que commencer, au propre comme au figuré. Car rapidement, la presse se déchaîne. et Deschanel devient la cible préférée des chansonniers. Plus sérieusement, certains journalistes, en termes feutrés, s'inquiètent de la santé mentale du chef de l'État. Enfin, officiellement. Deschanel propose sa démission au président du Conseil, qui la refuse, et ce malgré l'avis des médecins qui estiment que la dépression s'aggrave. Durant plusieurs semaines, Deschanel est écarté de l'Élysée. Il enchaîne divers lieux de villégiature jusqu'au jour où un nouvel incident se produit. Le 10 septembre, au château de Rambouillet, à 6h du matin, il descend dans le parc à demi vêtu. Là, il discute avec un employé qui n'en revient pas, puis entre jusqu'à la taille dans l'eau d'un grand bassin. La démission est alors inévitable. Le 21 septembre, Paul Deschanel, le cœur brisé, quitte l'Élysée. L'histoire du président qui est tombé du train est en vérité une histoire triste, même si elle comporte tous les ressorts d'une comédie de boulevard. Et c'est pour cela, sûrement, qu'elle a traversé le temps. Le ridicule de la situation a pris le pas sur la cruauté de l'événement. Une fois soigné, Paul Deschanel retourne à la vie politique. C'est son choix, c'est sa vie. Il est élu sénateur d'Eure-et-Loire le 9 janvier 1921. Il a vaincu sa dépression, retrouvé la considération de l'opinion, mais il n'en profite pas. Il meurt d'une pleurésie foudroyante le 28 avril 1922. Drôle d'histoire tout de même que celle de ce président à qui seule la chute d'un train a évité de tomber dans l'oubli.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Paul Deschanel, dont nous parlons avec notre invité Thierry Billard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur éditorial chez Robert Laffont et vous avez écrit en 2022 la biographie Paul Deschanel, le président incompris, paru aux éditions Perrin. Alors, on a parlé de cette histoire de train. Évidemment, Deschanel est connu pour ça. Mais il faudrait qu'on parle de choses plus profondes le concernant. Parce que voilà un président audacieux. Un, désireux d'abolir la peine de mort. Je rappelle qu'on est au début du 20e. De donner le droit de vote aux femmes, figurez-vous. Leur indépendance aux colonies, c'est quand même extraordinaire.
Ah ben, il était très novateur vraiment pour l'époque. Il a un parcours, grosso modo, d'abord de républicain, issu d'une famille républicaine, donc hostile à Napoléon III. Son père a été en exil, il est né en Belgique. Quand il arrive, effectivement, dans cette famille-là, imaginez, son parrain spirituel, c'est Victor Hugo, et c'est aussi Edgar Quinet. C'est quand même, ça pèse. Et il a toujours eu cette conscience, effectivement, de vouloir s'engager dans la politique, d'avoir un enracinement local, ça c'est dans l'Eure-et-Loire, dans Jean le Retrou, et surtout de vouloir faire évoluer la société. On va dire que, grosso modo, pour caricaturer, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui un centriste. Il est passé, grosso modo, du centre-gauche pour aller, au fil du temps, plutôt vers le centre-droit et vers la droite. Mais dans cette grande période de toutes ces idées politiques les plus avancées, c'est grosso modo 1892-1898, quand il devient président de la Chambre, c'est ce qu'on appelait à l'époque les républicains progressistes. Oui. C'est des héritiers des opportunistes d'avant qui veulent, ça va nous rappeler quelque chose, ni réaction ni révolution. C'est pas et de droite et de gauche, mais c'est ni les excès de ce qu'était considéré à l'époque la droite, les monarchistes qui ne voulaient pas la République ou les catholiques qui ne voulaient pas de République, ni les outrances, disait-on à l'époque, des radicaux. Et c'est vrai que sur énormément de sujets, il se démarquait de ses contemporains en étant très ouvert. Vous avez cité effectivement l'abolition de la peine de mort, le vote des femmes. Il était pour le mutualisme, ce qui est assez... Alors, c'est pas la sécurité sociale, mais c'était déjà une ouverture, la réduction du temps de travail. Il voulait vraiment qu'on arrive à ce que les gens travaillent beaucoup moins chaque semaine. C'était la propre proportionnel. Les scrutins à l'époque étaient un vrai système de blocage du régime, et on le voit puisque les chambres étaient difficilement gouvernables, mais lui, il était pour la proportionnelle. C'est des débats qu'on voit encore aujourd'hui contre la peine de mort. L'impôt sur le revenu, il était pour l'impôt sur le revenu parce qu'il estimait...
En tant que lien social.
En tant que lien social et parce qu'il estimait que c'était le meilleur moyen d'avoir une sorte d'équité entre les gens. Ce qui lui valait d'ailleurs d'être qualifié par certains d'homme de gauche et pourquoi il siégeait à droite, et réciproquement. C'est toute l'ambiguïté aussi de Deschanel. C'est-à-dire qu'à un moment, à force d'être justement avec des idées originales et de partout, il s'est retrouvé un peu nulle part. Et donc, même s'il y avait des amis avec lui dans les progressistes, c'était Poincaré, c'était les jeunes loups de cette époque-là, Jeunard, etc. À un moment, en fait, c'est devenu un homme seul. Et plus il a été seul, plus il a été président de la Chambre, effectivement, où là, tout d'un coup, il est devenu impartial, il n'a pas voulu se mouiller, plus il s'est renfermé sur lui-même dans la conviction que la seule solution pour arriver à l'Élysée, c'était de ne pas se mouiller, d'où, vous l'avez dit, il a refusé des tas de postes gouvernementaux. Donc, et en ne se mouillant pas, on s'éloigne du cambouis de la politique. Et ça, il n'a jamais mis les mains dans le cambouis. Et là, il l'a découvert, à mon sens, quand il est devenu président, où il avait les pieds gelés. Et l'erreur, à mon sens, fondamentale de Deschanel, et en même temps ce qui a fait son succès pendant des années, c'est qu'il a cru qu'on pouvait réformer de l'intérieur.
Mais oui, on le disait dans le récit. Ouais,
il a toujours été convaincu que par la parole, il arriverait à quelque chose, et en devenant président, il pourrait, par la parole, par la conviction, réussir à imposer ses vues.
Alors, il est né en Belgique, on le rappelle. C'est un enfant d'exil, puisque son père, opposant à Napoléon III, y avait trouvé refuge. Est-ce que cette enfance et le récit familial accolé à cet exil ont forgé peu ou prou sa personnalité?
Oui, parce que très tôt, je le disais, très tôt, et c'était le goût de la parole, du verbe. Il a fait des études très, très classiques à l'époque. Il est au collège, il est à Sainte-Barbe, il est à Condorcet, il est à Louis-le-Grand, etc. Donc il fait tout le parcours, il fait des lettres, bac de lettres, lettres classiques. Donc il a ce goût. Il s'est mis très tôt aussi à écrire des nouvelles, à écrire des petites pièces de théâtre. Il a un goût, il adore aller dans les salons, faire du théâtre et tout. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est un très bon président de la Chambre des députés aussi, et un très bon orateur. Il y a eu des joutes quand il était député avec Jaurès, qui était formidable, mais c'est vraiment un homme du verbe, un homme de parole, et ça, il l'a dès l'enfance. Son père l'a poussé dans ça. Alors, son père était aussi conscient que c'était un peu une faiblesse chez lui d'estimer que par un discours, il emporterait tout, donc il a essayé de le faire former sur le terrain, puisqu'il a réussi à le faire nommer grâce à ses amitiés sous-préfet de Dreux, puis de Brest, etc. Donc à 22 ans, il est sous-préfet de Dreux, ça, ouais. Quand même très très tôt. Mais donc, la faille de Deschanel, elle est là. C'est à la fois formidable, ça fait tout son parcours. Donc, c'est un homme de lettres, de mots et de verbes. Et vous avez fait écouter sa voix. C'était très touchant, d'ailleurs, d'écouter.
C'était clair, d'ailleurs.
C'est très clair.
Il n'est même pas la peine de tendre l'oreille, c'est étonnant.
Et c'est marrant, c'est pas trop ses voix nasillardes. Vous pouvez imaginer sur des.
Ça chevrotte un peu.
Ça chevrotte un peu, ouais. Mais bon, c'est pas les voix typiques de la fin du 19e. Voilà, il est sur ça. Il a toujours eu ce goût du verbe. Il est académicien. Hein. Il a été élu à l'Académie française. Il a ce goût-là de la lettre, enfin, des lettres, pardon. Et pas vraiment de la politique les mains dans la terre.
France Inter. Affaires sensibles.
Thierry Billard, le grand coup politique de Deschanel, c'est quand même sa victoire à la présidentielle devant Clemenceau. Comment on explique ça? C'est vraiment, quand on dit ça, quand on disait ça à l'époque, on devait se dire c'est le combat de David contre Goliath.
Oui, tout à fait, mais c'est oublier les conditions, c'est oublier le système parlementaire. C'est-à-dire, Clemenceau a passé sa vie à se faire des ennemis tout le temps, par son sens de la vacherie, par ses éditos dans ses journaux, par ses inimitiés féroces. Pendant la guerre, il a quand même, grosso modo, il a accentué justement ce travers-là. Deschanel, il a eu que des amis enfin, en tout cas, il s'était forcé à chaque fois de plaire à tout le monde en étant président de la Chambre. Or, ce sont les parlementaires qui l'élisent. Et en plus, Clemenceau a toujours dit, il y a deux organes inutiles, la présidence de la République et la prostate. Donc forcément, il ne pouvait que déplaire. Qui plus est, ses ennemis disaient si Clemenceau venait à mourir à l'Élysée, ça ferait des funérailles civiles, puisqu'il était anticlérical, alors qu'à l'époque, on était sur un rapprochement avec le parti catholique. Donc Deschanel et ses amis ont eu beau jeu de vouloir mettre ça en avant. Et en plus, il avait un ennemi féroce, Clemenceau, qui était brillant. Et Aristide Briand, qui est une des grandes figures politiques de l'époque, ne voulait surtout pas que Clemenceau soit président, parce qu'il était convaincu que dans ces cas-là, il ne reviendrait pas du tout au pouvoir. Donc tout ça s'est fédéré.
Briand était un pacifiste.
Exactement. Et tout ça s'est fédéré contre Clemenceau. Et Clemenceau, en vérité, donc il y a Georges Legge qui a commencé à faire une campagne pour savoir si des gens iraient vers lui, etc. Et en fait, ils se sont aperçus rapidement qu'ils n'auraient pas les voix. Donc l'élection Deschanel, elle est logique. Ouais. Et puis vous avez mis tout à l'heure l'extrait du film
Le Tigre et le Président,
on voit bien que voilà, Clemenceau avait gagné la guerre, il avait perdu la paix dans l'esprit de plein de gens, il fallait passer à autre chose. Il fallait un homme d'apaisement dans l'esprit de tout le monde.
Alors ça, c'est moins affriolant que Anquetil Poulidor, mais Deschanel Clemenceau, c'est l'histoire d'une rivalité. Est-ce que c'est aussi l'histoire d'un miroir inversé?
Oui, et je pense que c'est l'histoire d'un mépris d'un côté et d'une méprise de l'autre. Je pense que Clemenceau méprisait complètement beaucoup d'hommes politiques et méprisait encore plus les progressistes. Les relations avec Clemenceau et Poincaré étaient assez rudes, par exemple, et méprisait réellement Deschanel parce que Deschanel n'était pas dans l'action. Alors, vous avez raconté effectivement le duel, mais il y a eu plein d'autres moments comme ça où Clemenceau Clemenceau a arrêté de dire des vacheries sur Deschanel, où il disait qu'il était coureur de dot. Enfin bref, tout ça a fait partie du paysage. Et du côté de Deschanel, je ne pense pas qu'il y avait de mépris, mais il y avait une méprise, je pense, sur le rapport à la politique et à l'État qu'avait Clemenceau et qu'il avait lui. Donc je pense que ces deux-là ne pouvaient pas s'entendre. Ils ont totalement antinomie entre l'un qui est un peu rude et l'autre qui est un dandy de la politique, ça ne pouvait pas fonctionner.
On a parlé de ce duel, on a parlé de duel au premier sang, ça veut dire qu'à la première goutte de sang, on arrêtait, sinon il y avait des morts.
Exactement. Alors c'est amusant.
C'était pas présentable.
C'est ça. Vous l'avez montré, mais quand on voit la façon dont le duel est raconté par les partisans de Clemenceau ou lui-même et par les partisans de Deschanel, c'est pas le même résultat. Donc c'est toujours comme quoi c'était déjà comme ça à l'époque.
Alors, on a cité le film Le Tigre et le Président. C'est Jacques Gamblin qui joue Deschanel remarquablement. Comme d'habitude, Dussoli en Clemenceau, c'est peut-être moins étonnant, mais Gamblin en Deschanel, c'est absolument formidable.
Et avec une poésie, il a donné une poésie au personnage. Il y a plein d'erreurs historiques, mais ce n'est pas le sujet. C'est une fable qui est magnifique, ce film.
Donc, vous êtes d'accord qu'il faut le recommander aux auditeurs et aux auditrices qui n'ont pas vu ce film ?
Alors, il faut le recommander, non pas en disant que c'est un film d'histoire, c'est une comédie. Donc, mais c'est pas grave, au moins si ça donne envie d'en savoir un peu plus sur qui était Deschanel, qui était Clemenceau, oui, il y a des erreurs historiques assez incroyables, il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État, Deschanel n'a jamais été enlevé évidemment au moment de Montbrison par les communistes ou quoi que ce soit, enfin il y a des choses comme ça qui sont fantasmatiques, et le fameux discours qu'on voit dans tout le film où Deschanel est censé écrire son discours effectivement pendant qu'il est à l'Élysée, en vérité ça arrivera plus tard, mais c'est pas grave, c'est restituer aujourd'hui des personnages de la Troisième République qui est un régime méprisé, je trouve que c'est intéressant, ça donne envie.
Alors, le film, lui, est détenteur de la thèse selon laquelle la pathologie de Deschanel, c'était le surmenage, presque le burn-out, en fait.
Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a effectivement un surmenage, vous l'avez cité, qui s'accentue avec la Première Guerre mondiale. On dirait un burn-out aujourd'hui. L'élection a été dure. Le fait ensuite de découvrir que tout ce qu'il avait rêvé durant sa vie, il n'arrive pas à le faire une fois qu'il est président, a accentué ça. Ça, c'est le contexte global. L'accident du train, pour moi, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle un syndrome de Lepenor. Quelqu'un qui est surmené, qui prend en plus du Véronal donc pour dormir, qui est quand même un hypnotique et qui rend un peu inconscient. En fait, le syndrome de Lepenor, c'est, je ne vais pas dire que c'est du somnambulisme, mais c'est quand on se retrouve dans un lieu qu'on ne connaît pas, en étant sous médicaments, et on a une sorte d'éveil inconscient. Ouais. Donc il était dans un état second, il a voulu effectivement abaisser la fenêtre à guillotine du wagon présidentiel. Et c'est des fenêtres qui sont beaucoup plus basses que celles qu'on connaît. Donc il s'est penché à la fenêtre, et quand il y a eu les soubresauts, il est tombé du train. Donc c'est des choses un petit peu différentes. Mais, pardon, ce n'est pas un fou.
Non, c'est pas fou, c'est pas un fou, bien sûr. On l'a dit d'ailleurs.
Mais oui, mais on dit souvent, toujours, Deschanel a été fou, et on a dit qu'il avait signé des décrets Vercingétorix, Napoléon, etc. Ouais. Tout ça, c'est archi faux, ça a été prouvé.
Bien, ce sera le mot de la fin, comme ça, il est clair.
Merci. Celui-là.
Merci Thierry Billard. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Paul Deschanel, l'histoire d'une chute, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.